motherfucker.
Bienvenue sur Actionneur pour ce numéro consacré à la saga Predator. Pour me frotter cette créature iconique du cinéma américain, je suis accompagné par deux pointures. La première règne sur l'internet depuis quelques jours, à tel point que Kotaku a même consacré un article à son travail. Allez, l'incarnation d'une guerrière de la Grèce antique, voici Constance. Salut Constance.
Salut, merci pour cette intro.
Mon deuxième chroniqueur, vous le connaissez déjà car il m'accompagne depuis le début de l'aventure sur Actionneur. Il est ce qu'on appelle un professionnel.
Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel.
Alors, le professionnel?
Bah écoute, c'est tout moi. Je me suis reconnu dans chacun de ces mots et j'invite les gens qui ne connaissent pas encore ce film à le découvrir car il est assez exceptionnel.
Allez, on va commencer tout de suite donc par le premier film, Predator, et je vais lancer la petite bande-annonce qui va bien.
Moi j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat c'est pas mourir. Bon. Cette mission, c'est quoi?
Dans un coin du monde où toutes les règles ont été abolies.
Il faut suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière, pas vu, pas pris, et personne saura qu'on était là.
On, ça veut dire qui?
Au cœur de la forêt où la mort rôde à chaque instant.
Si t'es coincé ici, t'es dans la merde, Grantin.
Tous en piste, les clowns!
Tac, tac. Une opération de sauvetage.
Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas.
Et menée par un commando d'élite.
C'est pas dans la poche, c'est pour ça qu'on t'a...
Et soudain, pourquoi Billy a l'air si affolé?
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Ils doivent affronter un ennemi indicible.
Sainte mère de Dieu.
Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature.
Elle dit que la forêt est venue et l'a emmenée.
Nul ne peut voir le monstre.
Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché.
Mais il capte la chaleur des corps et celle de la terreur.
Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi.
Il tue par plaisir.
Ah ! Merde, il a été écaillé vivant !
Et chasse pour le sport.
Je crois qu'il veut nous avoir un par un.
On va tous y rester.
Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure.
S'il peut saigner, on peut le tuer.
Ça, c'est la classe comme bande-annonce.
Putain, on dirait un truc qui sort de Tonnerre sous les tropiques quand ils refont des fausses bandes-annonces. Et c'est là que je me rends compte que j'ai jamais vu Predator en VF.
Ouais, du coup, je suis dex qu'on l'ait pas regardé en VF. Hein.
Il s'est fait écailler vivant.
J'adore.
Ouais, moi aussi, là, j'ai revu en VO et je vais avoir des morceaux, des extraits du film en VO. Mais c'est vrai que la bande-annonce, bon, après, c'est très 90s, quoi.
Ouais, complètement.
Il se fait écailler vivant, quoi.
Tu te rends compte?
Alors qu'il y avait Dépecé qui marchait aussi bien comme...
Ouais, voilà, par exemple. Mais bon, après, si t'as pas d'écailles, tu peux peut-être te faire écailler. On ne sait pas. On ne sait pas, David. Peut-être était-ce un reptilien déguisé.
Quels sont vos souvenirs par rapport à... Et votre impression par rapport à Predator?
J'ai bien envie de laisser Constance commencer, parce qu'elle a une anecdote marrante sur sa première découverte de Predator. Allez,
je me lance.
C'est mon tour de t'afficher.
Donc voilà, non, il faut savoir que en fait, j'ai vu Predator que récemment. J'ai pas du tout de souvenirs d'enfance liés à ce monstre-là. Et en fait, la première fois que ce cher République a voulu me montrer Predator, c'était il y a quelques années. Et je me suis endormie devant le Predator, voilà. Donc j'ai dû voir 20 minutes du film et je me suis endormie devant. Bon, il faut savoir que j'étais très fatiguée, qu'on était posée tranquille sous une couette et tout. Donc voilà, ça n'a pas aidé. Et donc, 2-3 années ont passé, je crois, largement.
4.
Et ensuite, 4, voilà. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrive au bout de ce film, un jour peut-être. Et là, j'ai pour le coup, j'ai regardé le 1 en entier et on a fait le 2 et le 3 dans la foulée. Donc, j'ai rattrapé mon retard sur Predator. Voilà, du coup, j'ai bien aimé le film au final. J'ai pas grand chose à lui reprocher. J'ai même trouvé qu'il y avait un certain suspense. Donc, je pense que c'était vraiment une erreur de jeunesse de m'être endormie devant la première fois.
Car il y a 4 ans, tu étais très jeune.
C'est
ça. Tu ne l'es plus aujourd'hui. Je peux y aller ?
Vas-y.
Alors, moi, c'est assez bizarre ma relation avec Predator, puisque je pense que je connaissais le monstre, un peu comme Aliens, mais je pense que j'ai découvert les films Aliens bien plus tôt. En tout cas, Alien 1 et Alien 2. Mais je connaissais le Predator avant de connaître les films dans lesquels il apparaissait, parce que dans les années 90... Il y avait la série de comics qui était déjà hyper populaire, Alien vs Predator, qui a ensuite été adaptée en jeu vidéo. Et j'étais chez des amis à mes parents et leur fils aîné, qui était à peine plus âgé que moi, avait le premier Alien vs Predator sur PC. Et donc je voyais très bien ce qu'était l'Alien, je voyais très bien ce que c'était le Predator. Mais au contraire d'Alien, en grandissant, je me suis jamais dit tiens. C'est quoi en fait, ça vient d'où? Et j'ai découvert, je crois, Predator, je devais être soit en terminale, soit peut-être dans ma première année de prépa. Bon, ça date un peu maintenant, ça fait quoi, 10 ans presque, mais c'est vrai que ça fait relativement tard, quoi, autour de 17-18 ans. Et j'ai adoré le premier film, et surtout en fait c'est marrant, je sais pas pourquoi ça m'avait pas fait avec Alien, peut-être parce que je connaissais les films. Mais Predator, j'avais toujours vu ça comme un truc un peu nanardesque, l'espèce de super alien avec son blaster sur l'épaule, sa gueule pas possible et ses griffes. J'étais là, ouais, c'est pas super intéressant, c'est rigolo, c'est un personnage de jeu vidéo, quoi. Et au final, j'ai fini par découvrir le film et me dire, ah putain, en fait, c'est pas mal. Puis après, j'ai regardé les suites et j'ai fait, ah, c'est un peu moins bien qu'avant quand même. Mais on va en reparler. Et toi, David ?
J'ai découvert, je sais pas, un peu après la diffusion, je sais pas, enfin, ouais, j'allais dire début des années 90, quoi, j'étais minou. Ça m'avait assez marqué, mais bizarrement, j'ai toujours eu une espèce de sympathie pour le deuxième, plus que pour le premier. Le premier m'avait marqué, mais ça faisait partie de tous ces films de Schwarzenegger que j'interrogeais pas trop, quoi. Je crois que j'étais plus marqué par exemple par Conan que par le Predator. Même la créature m'avait pas non plus hyper emballé. Je crois que j'ai vraiment commencé à apprécier le film et l'univers sur le tard, même si c'est pas vraiment l'univers que, enfin, je kiffe vraiment, quoi. Mais j'aime bien l'idée, et c'est ce que dit Silver, que c'est un mélange de genres, c'est-à-dire que la première partie, on est dans un film de guerre, une seconde partie, on est dans un thriller, dans quelque chose, une espèce de tension, et dans la dernière partie, on bascule vers le film d'horreur. Et je trouve que ce mélange-là a quand même suscité chez moi une certaine forme d'intérêt. Mais je préfère le côté grandiloquent, et on en reviendra, du Predator 2, hein. En tout cas quand j'étais enfant. Maintenant, c'est plus l'inverse.
Et oui, car nos goûts évoluent.
Ouais. Et puis, je pense que la manière dont le film et la réalisation de McTiernan, simplement, est tellement particulière, est tellement bien léchée, est tellement intelligente. Mais malheureusement, je pense qu'il faut que tu comprennes l'intention du réalisateur. En tout cas, il faut que tu aies un bagage, je trouve, et il faut peut-être avoir vu les autres films pour se rendre compte combien ce film-là est singulier par rapport à tout le reste de la saga, jusqu'au dernier film.
Ouais, c'est clair. Et en plus, quand t'as un petit peu de culture, puisque c'est le terme du podcast Actionneur, quand tu vois en fait Predator comme tu vois Commando, après moi je suis plus de l'école Predator en l'occurrence, mais en fait la première fois que tu le vois, tu l'apprécies, mais tu sais, ça a pas cette... Enfin, moi j'ai pas eu cette espèce de révélation en mode « Ah, c'est ultime, on l'a jamais dépassé ». Je trouve qu'en fait, comme tu disais par exemple, en termes de mélange de films de guerre, de thriller et de films d'horreur, on l'a vu depuis dans plein de choses, et c'est la formule Predator, au final, elle est hyper, hyper basique, quoi. Et au final, il n'y a que John McTiernan qui a réussi un peu à la transcender. Mais c'est vrai que c'est un film, si tu le présentes à quelqu'un qui n'est pas forcément cinéphile ou quoi, je ne sais pas si ça va lui parler, s'il va se dire « Ah putain, c'est profond, c'est bien fait. » Peut-être qu'il va juste trouver ça chiant pour la première partie et débile pour la seconde, tu vois. Donc, c'est vrai que peut-être c'est juste un film de cinéphile, en fait.
Mais surtout qu'il y a une vraie disparité dans la réalisation. Et ça, McTiernan le signale dans le commentaire audio qu'on peut voir et on peut entendre sur le Blu-ray, c'est que, par exemple, toute la scène du camp, qui est quand même une scène presque importante et presque bascule dans le film, et en tout cas, qui est la partie vraiment guerrière de cette première partie du film, n'a pas été réalisée par un McTiernan. Il a été réalisé par la seconde équipe qui a filmé ça de manière très statique, très comme les films des années 80, parce que déjà, le réalisateur en question était un réalisateur qui était à l'origine réalisateur de l'agence Tourisque. Et donc, on voit les gens sauter, enfin, ça se passe toujours les explosions avec les gens qui tombent.
Qui sautent dessus, ouais.
Et ce qui est marrant, donc, dans le commentaire audio, c'est à quel point il... j'allais dire, il défonce toute cette partie-là, il se dédouane de cette partie-là en disant que, d'une certaine manière... les gens qui ont filmé ça ne comprenaient pas, lui, ce qu'il désirait, sa manière de filmer. Lui, il veut filmer dans le mouvement, il veut qu'une image en appelle une autre, alors que là, c'est que des plans fixes avec deux caméras, un champ contre champ, trois explosions. Et c'est vrai que tu le ressens la première fois où tu... Enfin, a posteriori, quand tu commences à regarder le film, tu vois bien que cette partie-là, ne ressemble en rien à la dernière partie qui est juste celle qui est canonique dans l'univers et celle qu'on retient, et d'ailleurs celle qui est recitée de film en film jusqu'au bout.
Bah, ouais, clairement. Après, c'est amusant ce que remarque McTiernan, qui est quand même un assez grincheux sur les bords. J'aime beaucoup, mais ça m'étonne pas qu'il dise ça dans le commentaire audio que j'ai pas encore écouté. Mais je trouve ça marrant parce que quelque part... Je suis complètement d'accord avec cette partie. Je trouve que, enfin, en le revoyant avec Constance, je me souvenais pas que ça partait autant en live et que les mecs sont censés sauver des otages, mais en gros, ils mettent toute la putain de jungle à feu et à sang en tirant au lance-grenade toutes les 30 secondes ou au minigun. Enfin, c'est une boucherie, quoi. Et en même temps, c'est aussi la seule scène où t'as, tu sais, des punchlines à la Schwarzenegger, stick around avec le coup de couteau et tout, tu vois.
Knock,
et le
knock-knock.
Voilà. Et ça paraît totalement, d'un coup, on vire totalement dans l'actionneur un peu limite, un peu moisi, peut-être déjà daté à l'époque, je sais pas trop, j'étais pas né, mais. Bref, on s'en fout de moi, mais ce que je voulais dire, c'est que. D'un côté, je suis d'accord avec son analyse, et de l'autre, je me demande si c'est pas ce qui fait que Predator, ça marche aussi, parce qu'en fait, c'est un film plus subtil qu'il n'y paraît, et c'est un film... il y a un film moins bourrin dans ce film un peu débile sur les bords, quoi. Et quand ça évolue derrière, dans un truc un peu plus psychologique, et que tu finis par avoir ce duel entre Charcy et le Predator... Tu te dis, je sais pas si tu le sentirais pareil sans cette espèce de démonstration de violence un peu bête et méchante, où tu te dis, putain, en fait, les mecs sont capables de raser un village en 30 secondes, qu'est-ce que peut faire le Predator contre eux ? Après, peut-être que McTiernan aurait juste fait une scène d'action mieux filmée et on aurait eu la même impression, mais je sais pas, je trouve que ça fait partie un peu aussi du mythe Predator et du côté un peu culte, c'est que bah, y a des trucs vraiment limites dans le film. Il y a vraiment des trucs limites, mais c'est, je sais pas, le mélange est joyeux.
Mais surtout que cette scène, elle répond à une démarche dans le tournage, c'est que McTiernan avait déjà cramé 48 jours sur les 56 dévolus et il n'avait pas tourné la moitié du film. Et c'est Joel Silver qui a imposé et réécrit cette scène et fait tourner ça vite fait par la deuxième équipe pour pouvoir le montrer au studio, cette scène badass, pour que le studio décide de rallonger et de faire exister le film. Autrement, ils étaient sur le point de l'annuler.
Ça paraît complètement dingue, mais oui.
Stick around. Donc Schwarzenegger, on est au tout début de sa carrière. Il venait de faire donc Conan, il venait de sortir Commando, qui était un succès. Et McTiernan, qui savait que Schwarzenegger était un acteur assez moyen, avait pris donc Carl Weathers pour lui donner la réplique et pour que... Schwarzenegger puisse suivre l'influx, l'énergie que mettait Carl Weathers pour qu'il se mette à son niveau.
Après, est-ce qu'il se met vraiment à son niveau? Je ne sais pas, mais il est culte quand même dans ce rôle. Je l'aime bien, Dutch.
Ouais, mais je trouve que là, je lisais encore tout à l'heure un truc, parce que donc le scénario de Predator, au moment où il a été tourné, il y a eu beaucoup de réécriture, et à chaque réécriture, il finissait par revenir sur le scénario initial, et notamment Schwarzenegger, sur l'une des réécritures, avait pris McKiernan entre quatre yeux, l'invitant à lui donner le moins de répliques possible. Et en plus, donc, en revenant donc, sur le scénario, ils avaient donc, Shane Black, qui était sur le plateau et qui était là pour, comme roue de secours pour faire le scénariste de dépannage si besoin était. Et au final, tout ce qu'il a écrit, c'est ses répliques qui sont
Billy,
notamment ça.
Billy! The other day, I was going down to my girlfriend. I said to her, Jeez, you got a big pussy. Jeez, you got a big pussy. She said, why did you say that twice? And I said, I didn't. See, it's because of the echo.
Moi, ce que je trouve terrifiant, c'est le rire après cette vanne qui est réutilisé par la suite par le Predator.
Ouais.
Et on y reviendra peut-être, mais je trouve que c'est l'un des trucs, peut-être le truc le plus effrayant du Predator, je trouve, c'est qu'il va observer ses cibles, enregistrer leur voix, les utiliser contre eux. Et je trouve que c'est l'une de ses armes les plus flippantes. Parce que tu peux flipper de te faire empaler par l'une de ses lames ou de se prendre un gros coup de laser dans la gueule, mais t'entends la voix de Constance et tu fais « Ah, Constance est rentrée !» Tu te fais déchiqueter, tu te fais écailler.
Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette réplique de Shane Black, c'est qu'il y a un côté hyper viril et presque crétin dans ce genre de blague, et je trouve que toute la première partie du film a ce côté d'hyper virilisme qui est à la fois caricatural, et je pense que McTiernan joue vachement là-dessus, mais je reviendrai sans doute pour la scène aussi des coups de feu. Comment il joue sur certains stéréotypes pour ensuite soit les détourner, mais de manière subtile, soit tu le prends de manière littérale, c'est-à-dire évidemment c'est des gros bras, évidemment c'est des gens qui sont en train de faire des blagues très en dessous de la ceinture et très sexistes. Soit tu vois le cheminement de ces personnages et comment ils vont être dépossédés d'une espèce d'assurance pour redevenir des hommes, j'allais dire, presque rendus à l'état de nature. Là où la créature, elle, est la sophistication et le chasseur ultime. Là où le personnage de Dutch est au préalable un gros bras, j'allais dire presque une espèce de force virile, une espèce de caricature de l'homme tel que tous les gens d'extrême droite se fantasment, jusqu'à se faire dessaisir tout au long du film de ça, pour arriver à cet homme qui finit par se battre avec un couteau et les flèches qu'il a construit lui-même. C'est-à-dire qu'il est complètement dépossédé de toute la technologie, de toute l'assurance que la société a créé autour de lui, et ce que même, d'une certaine manière, par son corps, il s'est construit comme une armure, et au final, il finit par... Il y a une espèce de dégradation vers l'homme redevenu à l'état de nature. Et je trouve que... Alors, c'est une analyse que je fais au jour d'aujourd'hui, mais et en ayant revu plein de fois le film, et en ayant entendu aussi McTiernan, mais je trouve que c'est super intéressant dans... En tout cas, moi, dans la lecture telle que je la fais.
Je pense qu'il faut laisser la parole à la seule femme de ce podcast.
En fait, moi, je sais pas si c'est vraiment une déconstruction de cette virilité qui se fait au long du film. En fait, je pense que c'est plutôt un changement et au contraire, en fait, une glorification encore plus de la force virile et de la force brute, parce que justement, il met de côté sa mitrailleuse qui lui permet de tirer sur tout ce qui bouge, parce que c'est facile, il suffit de presser la gâchette, et de revenir à justement la force brute de ses muscles, de sortir son couteau et d'aller tailler ses flèches, et de se battre vraiment comme un homme, on va dire, à main nue dans la forêt. Et d'ailleurs, on remarque aussi qu'il perd ses vêtements au fur et à mesure du film. Et en fait, je pense que c'est... pour moi, ça s'inscrit justement dans ce côté, tu l'as souligné, de ces mouvements d'extrême droite qui vont aller faire des camps pour apprendre à ramper dans la boue et à redevenir des vrais hommes.
Ce podcast est trop politique, je vous vire tous les deux. C'est comme ça.
Et pour moi, c'est un peu ça qu'on voit dans le film. Alors, je pense que c'est un message qui est plus ou moins conscient, peut-être, de la part du réalisateur, mais c'est pas forcément un... Enfin, pour moi, je le vois pas vraiment comme un retour à la nature ou comme une perte de la carapace des hommes de ce film.
Si je peux me permettre d'intervenir, je me demande s'il n'y a pas une sorte... Parce que David expliquait qu'il faisait ce commentaire-là aujourd'hui. Et en fait, je me demande si vous n'avez pas tous les deux raison, au sens où, à l'époque où Mac Tiernan le fait, il a peut-être telle ou telle idée, ou il n'a pas forcément conscience de ce qu'il filme, parce que, quelque part, il y a déjà une norme des actionneurs et du héros masculin, etc., et de ses attributs. Mais que ces dernières années... Il a développé tout un discours en même temps que la critique a parfois analysé effectivement le film comme vient de l'analyser David, qui va dans le sens d'une déconstruction des attributs masculins, sous-entendu la société les pervertit et ils sont meilleurs en tant que juste bêtes, quoi, à l'état bestial, je veux dire. Parce que je me souviens d'une interview de Mac Tiernan qui a justement, je crois que c'était à Nantes à l'époque, il était passé pour une séance du festival de SoFilm dont j'ai oublié le nom, et une séance de Predator où il avait fait une interview auprès de notre camarade François Léger, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il dans l'interview, il revenait, le sujet d'interview, c'était vraiment sur le côté viriliste et les héros masculins, et lui il expliquait que aujourd'hui, il détestait ça, il trouvait ça abject et fasciste qu'on ait un héros qui s'appelle Captain America, qui représente, enfin tu vois, qui soit beau, baraque et tout. Donc je me demande si il y a pas, peut-être qu'il l'avait dans un coin de sa tête et que avec le temps, il a fini par faire la paix avec cette idée-là ou l'accepter un peu plus fièrement, je sais pas. Donc voilà, je serais la caution macroniste entre deux, hein, de ces ce podcast est politique, mais entre vous deux, peut-être, je ne sais pas.
Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est une bande de mecs qui sont très proches, justement, qui se racontent ces blagues de cul, qui se regardent dans les yeux en bandant leurs muscles. Enfin, je trouve qu'il y a presque une esthétique homo-érotique autour de Schwarzenegger qui se couvre de boue sensuellement. Il y a presque aujourd'hui, avec le regard qu'on peut avoir, une espèce de subversion, en fait, autour de cette figure masculine qui est ce corps parfait de l'athlète que les Grecs auraient peut-être adoré.
Mais c'est marrant, en plus, c'est que dans le film, toute l'équipe, à part Shane Black, toute l'équipe, c'est un comme il le soulignait dans le récent Honest Trailer de Predator, toute l'équipe est le macho type de sa propre ethnie. Où, donc du coup, c'est je suis noir, mais je suis macho type noir, tu vois, donc j'ai des gros muscles. Après, j'ai macho type latino, je sais plus, ils y sont tous, sauf Shane Black avec ses grosses lunettes dégueulasses, pleines de buée et qui transpirent. Et qui est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le premier à mourir dans le film. Donc, je sais pas dans quel genre de théorie cette remarque-là s'inscrit. Est-ce que c'est plutôt en mode si t'es pas fort, tu te fais tuer en premier, ou est-ce que c'est regardez, le prédateur, c'est la société, il détruit les hommes. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va trop loin. Peut-être qu'il est temps de ramener un petit peu de steak frites et enlever la politique de ce podcast.
Non, mais c'est toujours intéressant, surtout dans les actionneurs, les actionneurs en particulier, et de cette époque-là, d'autant plus, ont toujours un message à transmettre, quelque chose à raconter, et ils s'inscrivent dans un mouvement sociopolitique. Et surtout là, avec toute l'imagerie du Vietnam qu'on nous déploie, c'est impossible de passer à côté de la dimension politique de cette œuvre.
Exact.
D'ailleurs, je vais venir tout de suite sur l'histoire donc, des coups de feu, où il rase une partie de la forêt avec les armes à feu, et Mac Tiernan, donc dans le commentaire audio, disait qu'il voulait à travers cette scène, on le forçait d'une certaine manière à avoir une scène de gunfight absolue, donc il leur a proposé donc cette scène, et c'est la scène absurde par excellence, parce que donc ils sont tous les il reste plus que 4 je crois, qui sont là en train de dézinguer la forêt et ils tirent pour rien, et il y a comme ça une espèce d'absurdité dans leur geste, de vacuité. Et il voulait montrer comme ça, et il l'a fait déjà aussi après dans Die Hard, il voulait montrer comme ça cette vacuité d'espèce de fantasmagorie, de volonté de sacraliser l'arme à feu et son usage, qui lui réprouve, alors qu'il a fait des actionneurs avec beaucoup de pistolets. Et c'est en ça où, par rapport à la masculinité, et par rapport à cette scène qui, effectivement, quand tu regardes et que tu te dis, bah ouais, les gars, Ils ont vidé des chargeurs partout et sur une cible qui, de toute façon, n'était plus là. Et voir la vacuité de cette scène, c'est aussi en ça où je trouve qu'il joue vraiment sur les codes. C'est-à-dire que tu peux le voir comme une espèce, effectivement, de situation où ils défouraillent. Enfin, ils sont en train de tirer dans une espèce de posture comme ça, toute virile, et lui veut montrer qu'il y a un côté absurde derrière ça.
Ouais, moi j'ai surtout perçu l'absurdité en fait de ce passage-là, parce que on voit que ils s'y mettent à quatre pour tirer un peu dans tous les sens, et non seulement ça sert à rien, en plus, enfin, ça détruit un bout de forêt, mais c'est en réalité un bout minuscule de cette forêt qui est hyper oppressante autour des personnages. Donc il y a ce côté, en plus, ben c'est encore plus inutile parce que ça n'a pas détruit l'environnement de ton adversaire. Et en plus, ils n'ont plus de munitions, après, si je ne m'abuse. Et ils se retrouvent là comme des cons, après avoir vidé leur chargeur, en mode, ben, on a fait un truc qui est inutile, qui a servi à rien... Alors qu'on est censé avoir une puissance de feu et régler facilement les problèmes. Et donc, en fait, ouais, c'est ça. Enfin, c'est presque tragique, quoi. Genre, c'est aussi le moment, je pense, où les personnages commencent à réaliser que, ben, ils sont helpless au milieu de cette putain de jungle.
Je dirais que c'est le moment où ils réalisent qu'ils vont se faire écailler vivants.
C'est ça.
Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, sur l'arme, là, notamment la painless. La rotative.
Minigun, ouais.
Il disait que le gars pouvait porter que 6 secondes de munitions, c'est-à-dire qu'il pouvait tourner, il pouvait tirer que pendant 6 secondes, et il craignait qu'une chose, c'est que l'arme s'élève et qu'elle se retrouve dans la tête du gars de Jesse Ventura, donc l'acteur. Et donc, sur certaines scènes, il l'avait câblé sur le bas pour éviter qu'il se la prenne en pleine tronche. Mais en vérité, la force rotative faisait que ça tenait droit et que tu pouvais pas, d'une certaine manière, vraiment tourner, enfin, tu pouvais rien faire. T'étais campé sur tes pieds.
Mais ils ont tiré avec des balles réelles, genre dans cette forêt, ou comment ça se passe?
Ça, je sais pas. Ça, il le dit pas, mais...
Parce que bah, pour coucher autant d'arbres, j'imagine qu'il faut un minimum de projectiles.
Franchement, ça m'étonnerait pas qu'à cette époque-là, sur les tournages, parfois, ce soit un peu YOLO.
Tranquille, on se met dans une forêt au Mexique. S'il y a 3 enfants qui passent, c'est pas grave.
Sachant qu'en plus, la forêt, je sais pas s'ils étaient déjà à Palenque, mais donc le tournage s'est passé à 2 endroits. Et le premier endroit, donc... dont le nom m'échappe, c'était une forêt avec des feuilles caduques, et le problème c'était que au bout de quelques jours, enfin de quelques semaines, les arbres se sont décimés de leurs feuilles, et donc ils ont été obligés de rajouter des feuilles sur le premier plan, de rajouter des arbres, de rajouter des trucs pour créer l'aspect oppressif, jusqu'à augmenter la colorimétrie en vert. D'ailleurs, sur l'une des scènes, McTiernan indiquait que la peau de Schwarzenegger a été un peu verdâtre sur des reflets, et c'est parce qu'ils avaient poussé la colorimétrie verte à fond pour accentuer donc l'aspect jungle, parce que en vérité ils n'étaient pas dans une jungle, et il a fallu qu'ils déplacent plus tard le tournage à Palenque pour qu'ils se retrouvent enfin dans une jungle.
En fait, ils tournaient dans une forêt vosgienne en plein automne, il n'y avait plus une seule feuille. C'était catastrophique.
On va parler peut-être des autres acteurs.
Est-ce qu'on peut parler de Jean-Claude Van Damme?
J'allais y venir. Ah ouais. Parce qu'évidemment, mais si on parle de Jean-Claude Van Damme, il faut évidemment parler de La Créature. Donc le tournage de La Créature était prévue donc, sur les derniers instants du tournage, sur la dernière partie du film. Donc ils avaient déjà tourné toute une partie du film. Et le truc, c'est qu'ils voulaient que La Créature soit... qu'elle puisse sauter d'arbre en arbre. Et donc ils avaient un premier... draft, une première idée de la créature, qui était une créature avec les genoux inversés, avec une tête un peu longue comme un ballon de football américain, un peu insectoïde, on aurait dit une espèce de créature issue d'un Power Rangers, quelque chose d'assez ridicule.
Une sorte de homard, enfin, je sais pas, moi je trouve ça ressemble à un fruit de mer.
Avec un grand cou et des grands bras.
Mm-hmm. Ouais, et un costume rouge.
Ouais, exactement. Alors le costume rouge, il y a une raison, c'est parce que c'est pour toutes les parties invisibles. Ils avaient besoin d'un costume pour pouvoir le cacher, en fin de compte, et créer son camouflage. Donc c'est pour ça qu'il est rouge. Et donc Jean-Claude Van Damme a été engagé. Et on ne sait pas encore le Jean-Claude Van Damme de Bloodsport.
Mais il aime faire des grands écarts quand même.
Et ouais. Et donc voilà, et donc il voulait que sa créature puisse faire du kung-fu, sauf qu'il n'avait pas compris que le kung-fu c'était sur des échasses et que le truc c'était super lourd à porter, et en plus il se trouvait ridicule dans ce costume rouge, et donc il était un peu mal à l'aise. Et Schwarzenegger, dans son livre Total Recall, donc dans sa biographie, disait que donc Jean-Claude Van Damme ne faisait que geindre pendant les prises, dès qu'il a commencé la première scène. Le truc, c'est qu'il était suspendu avec des poulies, parce que donc la créature et le costume et tout ça étaient super lourds, et il voulait quand même lui donner un aspect très, très léger, très plein d'allant, agile. Et le truc, c'est que vu que la créature et que les délais de production ont été raccourcis pour pouvoir commencer le tournage de cette créature-là, la poulie a pété et Jean-Claude Van Damme s'est retrouvé par terre dans l'incapacité de se relever. Et donc, au final, ils ont viré Jean-Claude Van Damme, ils ont viré la créature et ils ont demandé à Stan Winston de proposer un nouveau concept, parce qu'ils se sont bien rendu compte que le problème, c'est que le design de la créature marchait très bien dans un studio, mais là, on n'était pas dans un studio, tout était tourné dans la jungle. Il disait d'ailleurs que donc c'était toujours à flanc de coteau et que c'est Schwarzenegger qui disait que c'était ce qui était assez éprouvant, c'était que donc ils avaient toujours une jambe plus haute que l'autre et qu'au bout d'un moment ça finissait par casser un peu les jambes. Et donc il y a eu une pause. Ils ont demandé à Stan Winston, et Stan Winston c'est pas n'importe qui, c'est celui qui est derrière The Things, c'est celui qui est derrière les créatures de Terminator, de refaire la créature totalement. Et donc ils sont partis sur une créature beaucoup plus humanoïde. Et d'après la rumeur, et non pas, enfin même la légende, c'est que l'idée des mandibules est venue de James Cameron, parce que tous les deux allaient à une convention au Japon suite à Aliens ou Terminator. Et c'est Cameron qui, dans l'avion, a dit qu'il aimerait bien avoir des créatures avec des mandibules. Et donc Stan Winston s'est empressé de noter cette référence.
Bah, le design final fonctionne hyper bien. Enfin, j'adore le design de la créature, quoi. Que je connaissais avant même du coup le film, mais c'est vrai qu'on a failli avoir un coléoptère qui passe d'arbre en arbre en faisant du kickboxing, et ça quand même c'est une grosse perte pour l'histoire du cinéma.
J'en suis pas persuadée. Je pense que si le film est devenu culte aussi, c'est parce que le design justement a plutôt bien vieilli, et que en tant qu'être humain, bah, y a toujours ce côté flippant justement dans quelque chose qui nous ressemble mais pas tellement. Et le côté humanoïde de la créature joue pour beaucoup dans la terreur qu'on peut ressentir face à elle. D'autant plus lorsqu'elle enlève son masque et qu'elle a ces espèces d'yeux totalement exorbités, comme si elle n'avait pas de paupières. Enfin, c'est ça en fait qui crée aussi le côté méga flippant. Après, honnêtement, dans le premier, quand la créature essaye de faire quelque chose avec ses doigts et qu'il y a des espèces de gros plans sur ses mains, genre, on voit très très bien que la personne sous le costume a beaucoup de mal à faire un temps soit un peu preuve de précision avec tout l'espèce de gros costume en latex dans lequel elle est engoncée. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des passages qui sont parfois à la limite du rigolo, parce que le prédateur il peut pas faire grand chose avec ses gros doigts boudinés, quoi.
C'est vrai.
D'ailleurs, McTiernan disait qu'il était content quand il a vu Predator 2 de pas trop avoir filmé la créature. Mais c'est là où je me demande si McTi, il est pas. Si le truc avec les créatures c'était pas vraiment son truc, quoi.
Mm-hmm. Non, ça paraît logique que ce soit pas vraiment son truc.
Ah, c'est pareil, en revenant sur la créature, ce qui était intéressant c'est que McTi avait bien conscience que. Celui qui allait proposer une nouvelle créature, ça pouvait pas être, ne pourrait pas rivaliser avec l'Alien et les créations de Giger. Donc, d'une certaine manière, il s'était presque fait à l'idée d'avoir une créature moins charismatique que l'Alien.
Moi, je le trouve assez charismatique. Je sais pas s'il est plus charismatique que le Xenomorph, sans doute pas, mais j'aime bien le mélange un peu technologie, de délire tribal, BDSM, dreadlocks, le masque en métal, j'aime assez.
Je sais pas, moi je trouve que l'alien est quand même beaucoup plus flippant, a beaucoup plus de présence que le Predator.
Mais déjà, il y a le fait qu'il se déplace pas comme un humain, tu vois. Predator, il est quand même bipède, tu vois, le xénomorphe, même si tu le vois sur deux pattes, t'as l'impression qu'il peut faire d'autres choses, grimper au mur et tout ça, tu vois. Là, le Predator, bon ok, il est dans les arbres, mais limite un Ewok qui fait pareil, tu vois. Je pense d'ailleurs que les Ewoks auraient vaincu le Predator parce que les techniques qu'utilise Schwarzenegger à la fin du film, c'est très clairement inspiré des Ewoks. Hein. Je pense que c'est eux qui l'ont formé à la base dans l'US Army. Mais ne rigolez pas!
Alors, on va peut-être parler de la confrontation finale, hein, celle où les Ewoks auraient pu être là.
Exact. J'adore ce passage du film. Je pense que c'est quand même celui qui permet... qui enfonce le clou quant au côté culte et vraiment pas dégueulasse de ce film-là. Je pense que si t'enlèves la confrontation, il manque un truc et il n'y a jamais de Predator 2 ou de suite. L'idée de la boue, même si Schwarzenegger aujourd'hui le dit en mode « Oh non, il ne m'a pas vu !» et qu'il le dit comme ça quasiment en face caméra, c'est un peu débile, mais je trouve que sur le moment, ça marche hyper bien. Le côté, quand il commence à se préparer et tout, moi je trouve ça hyper stylé, même si bah, depuis tu l'as vu 100 fois et qu'il y a un petit côté home alone où le gars essaie de faire comme il peut pour vaincre le Predator. Mais j'adore, et surtout quand il prend qu'il finit par prendre la torche et l'appeler, c'est le moment tu vois, du film, je kiffe. Et puis il y a aussi le petit twist sur comment il bat le Predator en lui faisant croire qu'il va vers quelque chose. Et donc du coup, il fait le tour et il se met exactement là où il a suspendu un tronc pour les cahiers vivants.
Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'il y a assez peu de dialogue et elle est totalement... je pense que c'est celle qui va inscrire McTiernan dans son style. Et c'est celle qui montre le style de McTiernan. Tout est fluide, tout passe par le regard, les corps, le mouvement... La seule chose que l'on retient, c'est la réplique de Schwarzenegger lorsqu'il découvre la créature que je mets normalement ici.
You're one ugly motherfucker.
Avec un accent australien. Australien. Un accent autrichien, donc.
Presque.
Quand il parle le motherfucker, il est quand même un peu de l'Est, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il est moche.
Ouais, mais en même temps, c'est marrant parce que cette réplique, c'est quasiment méta. Enfin, c'est vraiment, il met les mots sur la réaction de l'audience. Et on a presque l'impression que c'est Schwarzenegger qui parle et pas son personnage.
Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Après, par contre, je déteste le moment quand ils se mettent des pains. Tu sais, on dirait qu'ils se mettent des petites claques et tout, genre, bah, et après, ils tombent dans l'eau, ralentis un peu, là, c'est un peu chum. Tu sens pas la physicalité, tu sens que le costume, il est mou et qu'ils peuvent pas vraiment se mettre des coups, tu vois. T'as des petits boing, mais c'est pas ça.
Mais d'ailleurs, je trouve que la prestation de celui qui était dans le costume, donc qui s'appelle Kevin Peter Ho, est assez géniale. Donc, il leur fallait quelqu'un qui était capable, par sa stature, de faire passer Schwarzenegger pour un abo. Il lui donne du corps. C'est-à-dire que c'est pas qu'une simple créature en latex comme à l'époque on était beaucoup dans les animatroniques. Et là, c'est presque une anomalie dans la mode du moment au cinéma de voir quelqu'un dans un costume. Et je trouve que c'est ce qui lui donne un certain charme et une certaine prestance, même si tu le sens engoncé, quoi.
J'adore quand il se déplace un peu sur le côté en ouvrant les bras et tout, il y a un côté chelou
dans sa
posture. Même quand il le défie, tu vois, il y a cette tête qui penche en avant, comme ça, je trouve un peu flippant, un peu inquiétant.
Allez, on va passer au deuxième film. Je balance la bande-annonce.
Il avait atterri dans la jungle la plus hostile du monde. Maintenant, il débarque dans une toute autre sorte de jungle. La chasse est ouverte et le gibier, c'est nous.
Le gibier, c'est nous. C'est toi, David. C'est toi, Constance. C'est moi aussi. C'est tout le monde. C'est marrant comme cette bande-annonce résume un peu le... Bah, on savait que, enfin, tu l'as rappelé tout à l'heure, David, Predator, ça part quand même d'une origin story un peu débile. Et la suite part d'une, je trouve, d'une idée aussi tout aussi débile, genre « Hey, tu connais l'expression jungle urbaine ?» Ouais. Si on faisait la jungle urbaine pour Predator, yeah, allez, deuxième fil, tranquille. Et au final... ça marche bien. Moi, j'aime bien Predator 2. Ah, j'ai pas honte de le dire.
Moi, j'aime pas trop Predator 2. Justement, je trouve que en déplaçant l'action du film, on perd un peu la puissance qu'il pouvait y avoir dans le premier opus. Et en fait, je sais pas, pourtant, du coup, j'ai vu les films avec peu d'intervalle entre les deux, mais pour moi, ça y est, c'est bon, genre Predator, il était dans la jungle, quoi. Et le foutre au milieu de la ville, enfin, ça avait plus de sens, quoi. C'est comme si tu le mettais sur la banquise, enfin, je sais pas, genre...
Ah, Alien versus Predator. Alien versus Predator, ça se passe sur l'Antarctique.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est la banquise, il y a les petits pingouins, les crochons 2, les écailles vivas.
Mais ouais, non, pour moi, ça passe pas trop, et je sais pas s'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient peut-être toucher un peu plus grandement l'audience et te faire peur en mode « Ouloulou, peut-être Predator, il est juste en bas de ton immeuble », mais ça marche moins bien, quoi.
Ah non, c'est génial, moi j'adore. Alors, c'est aussi parce que c'est à cause de mon souvenir d'enfant, je sais pas pourquoi j'ai préféré ce film, alors qu'au préalable, là, quand je l'ai revu, voir Danny Glover... J'avais l'impression qu'il était sorti tout droit de L'Arme Fatale. Ça me choquait de le voir ici, quoi.
T'es clairement dans un spin-off de L'Arme Fatale et il a clairement aussi été casté dans cette optique-là, quoi. C'est un peu... C'est ça, en fait, qui fait le charme de Predator 2, selon moi. Et je me souviens peut-être de la première fois où je l'ai découvert. Je me demande si j'étais pas avec mon meilleur pote Raphaël. Mais genre, je m'attendais pas à ce que ça soit autant... ce que j'appelle un film glucose, c'est-à-dire c'est très sucré, ça part dans tous les sens, ça gave, tu vois, tellement t'en as, mais quelque part ça fait du bien à ton corps, il en redemande tellement c'est dégueulasse. Et je trouve que c'est ça, c'est genre première scène, il fait chaud à Los Angeles, grosse baston entre les gangs, les mecs tirent à feu à sang sur les journalistes, la police et tout, ça part dans tous les sens, t'as l'impression que t'es dans le Détroit de Robocop, quoi. Donc du coup, t'as ce côté un peu futur dystopique que j'aime bien. Danny Glover qui débarque en caisse, il ouvre son coffre, il y a 12 000 guns, t'es là, ok, tu sais dans quel genre de film tu t'es, tu vois. Mec se réfugie dans un immeuble, ils se font déchiqueter par le Predator, t'es là, oh putain, ça fait 5 minutes que le film a commencé, c'est déjà une grosse sauce. Et après, tout le long du film, c'est sauce sur sauce, c'est très glucose. Et à chaque fois, avec tous les clichetons possibles de l'actionneur, avec le mec qui est mort, qui revient, les gros plans sur les guns, il y a pas mal de punchlines aussi par rapport au Predator. Mais du coup, il y a cette espèce de, tu vois, d'énergie du n'importe quoi, très gonzo un peu, que moi, je finis par apprécier, quoi. Je sais que c'est sale, je sais que, tu vois, je sors, je suis pas propre, mais sur le moment, ça me fait kiffer, quoi. Ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Alors qu'il y a presque un côté, avec le rotule, il y a presque un côté un peu All Star, où t'as Danny Glover contre le Predator, t'as des références à Aliens, ça ressemble au truc de Robocop, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref.
Ouais, mais je trouve que tout ça, ça fonctionne, c'est-à-dire que s'ils avaient... Alors, ils ont essayé de reproduire après hein, la jungle... comme l'aime Constance, mais je trouve que ça permettait de décaler la créature et la mettre dans un autre endroit, et je trouve que ça lui donnait peut-être un peu plus d'originalité que perdra Predators et que aura du mal à avoir le film de Shane Black.
Mais après, c'est vrai qu'on perd quand même quelque chose dans le film, c'est que je trouve qu'au final, il n'y a pas ce côté, je retrouve pas ce côté méthodique et presque honorifique du Predator qui a l'air de suivre un certain nombre de règles dans le premier, tu vois. Par exemple, la scène du métro qui vient d'un comics Predator, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Genre, je la trouve hyper bien, mais genre, je comprends pas ce qu'il fout là, tu vois. Genre, il chasse des flics comme il y en a des milliers d'autres dans Los Angeles, et ça me paraît pas digne de son temps, et de son, enfin, il s'abaisse à un niveau un peu tiens, vas-y, je vais déchiqueter des civils dans le métro, enfin, tu vois, genre, pour le chasseur ultime, je sais pas, c'est pas un challenge, quoi. T'arrives wagon 1, ligne 13, wagon 2, voilà, tu les découpes tous, hein, ok, il y a beaucoup de gens à Paris, ce serait un petit peu un challenge, le mec se perdrait avant de trouver de quoi tuer, mais c'est pas, je sais pas, il y a pas un côté, il a un côté plus saucisse, pour reprendre une expression chère à nos cœurs, mais il va direct avoir tout de suite des crânes, des colonnes vertébrales, du sang, de la bouillie. C'était le premier film à avoir le classement NC-17, si je dis pas de conneries aussi. Et du coup, c'est vachement dans la démonstration de force, Mais il n'y a pas ce côté un peu flippant ou genre c'est juste plus gore en fait. C'est plus gratos, je trouve.
Ouais, c'est même gras tout court.
C'est gras, ouais. C'est gras, tous.
C'est ça. Et c'est tellement. Enfin, moi, je l'ai trouvé tellement over the top. Enfin, je veux dire.
Fois, t'aimes bien manger gras.
Ouais, mais là, genre, une des premières scènes où il y a les deux gangs de revendeurs de drogue qui s'affrontent, et du coup, ils débarquent chez le mec, il y a une nana à poil, ils commencent à faire un sacrifice vaudou et tout. Enfin, t'es là, genre. Et t'as le prédateur qui arrive par-dessus ça. T'es là, mais les gars, enfin, ils empilent les armes. Clichés de l'époque, tu vois. Et je sais pas, je trouve que ça perd de sa subtilité et c'est un peu. Ouais, genre. Les keufs, ils font quand même bien de faire la war on drugs. Enfin, il y a un peu plus le côté America fuckier, alors que dans le premier Predator, il y avait quand même une critique à peine voilée de l'interventionnisme américain.
Ouais, non, mais ça, après, je l'entends, mais c'est vrai que McTiernan était très dans la retenue, notamment dans il voulait pas faire des trucs trop gore, parce qu'il trouvait ça un peu trop dégueulasse. Et c'est vrai que le deuxième...
Il s'en bat les couilles.
C'est totalement en roue libre et ils y vont à fond, quoi.
Ah, mais je crois qu'une des scènes que je préfère, alors que c'est juste des gros plans tout pourris, c'est quand il sort le crâne et qu'il commence à le nettoyer avec son petit airbrush, là. Ah, nickel. Je trouve ça hyper bien. Je trouve que dans le film, ça me sauce absolument. Je me dis, oh putain, le mec en veut, tu vois, genre, ça, il est déter. Il est moins, tu vois, il est un peu plus saucisse, ce Predator, il est moins méthodique. Mais il est là pour s'amuser. Le gars, il va donner, quoi.
Et moi, c'est parce que quand je l'ai revu, là, je me suis dit, mais on dirait vraiment un truc, c'est Dark Knight Returns, tu vois, c'est pondu du cerveau de Frank Miller. C'est tellement over the top. Mais...
On en revient à Robocop, mais je trouve qu'il y a une énergie un peu, néo-noir dystopique, genre, bon, à l'époque, c'est dans le futur, mais ça se passe en 97. Mais du coup, à l'époque, c'est le futur et les mecs, ils ont tous des lunettes énormes sur leur revolver et leur gun de police. Ils ont des rayons laser. Et les mecs avec aussi les tenues là, des types qui veulent capturer le Predator. Où d'un coup, on se retape un petit délire Aliens avec les lumières et tout et les espèces de bip pour le localiser. C'est vrai que je sais pas. J'aime quand même. Je dois dire que ça me sauce un petit peu tout ce gras là des fois. Une bonne petite raclette de Predator là, servie dans un crâne humain, on adore.
Surtout que le film, il aurait pu ne pas exister. Il a fallu que les studios se fassent convaincre par le succès des comics. C'est le succès des comics qui a conduit les studios à dire ouais, on va en faire un deuxième. Autrement, ils ne seraient jamais venus, quoi.
Mais en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que Frank Miller, succès des comics, etc. Mais aujourd'hui, quand je revois le film, je trouve qu'il y a un vrai. Enfin, je trouve que c'est un mauvais film comme il pourrait en sortir aujourd'hui, tu vois. Genre vraiment, genre avec une esthétique une politique à peine actualisée, tu pourrais sortir ce film maintenant. Et ce serait pas très différent, en fait, je pense. Parce qu'il y a un côté un peu comic book movie, nanar, rated R, prends ta colonne vertébrale déchiquetée, ah tiens, des nanas à poil, so edgy, tu vois. Et c'est clair qu'il est pas subtil pour un sou, mais c'est marrant de savoir que c'est des comics qui ont influencé ce truc, parce qu'il y a une énergie très... Enfin, il y a beaucoup de plans iconiques, alors que globalement, les scènes en elles-mêmes sont pas forcément hyper bien filmées. Après, je trouve qu'il y a plein de plans qui m'ont marqué, ouais, quand on l'a revu. Genre, il y a un espèce de plan tout bidon où je crois que c'est Danny Glover, où il est avec son partenaire qui est joué par Bill Paxton, qu'on avait vu déjà dans Aliens. Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens de cette scène, David, je crois que c'est quand ils sortent du commissariat, ils sont dans un parking souterrain, et même toi, Constance, il me semble que tu m'as fait la réflexion, il y a une espèce de mouvement de grue. Il y a beaucoup de grues, je crois, dans le film, et qui est hyper beau, hyper léché, et qui a un peu presque rien à foutre là, mais qui donne l'impression, en plus, ça découpe l'image avec les espèces de poteaux en béton, qui a vraiment une lecture très BD, tu vois, de haut en bas et tout. Et moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce film, parce que il y a du bon dans le gras, tu vois. J'ai pas d'autre manière de l'exprimer. Mais...
Et en revenant sur le côté BD, le réalisateur, C'est un ancien qui faisait des comics pour Marvel UK.
Ah ouais, je savais même pas. C'est le mec qui avait fait Freddy, un des Freddy, non ?
Ouais, il a fait Freddy 5, mais au préalable, avant, il était auteur, dessinateur de comics chez Marvel UK. Donc je pense que c'est pour ça que toute cette intégration, notamment la scène du métro, il y a un côté hyper comics, hyper découpé, avec le côté un peu stroboscopique et tout. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a un côté très très comics dans la mise en scène.
Ouais, c'est pour ça que je dis que étonnamment, il y a un côté un peu actuel dans le truc. Alors forcément, ce serait un peu plus propre aujourd'hui ou quoi, mais c'est assez marrant du coup. Je sais que quand je voyais ce film et tout, je me disais, tiens, c'est marrant parce que ça, c'est proprement turbo débile. Mais en même temps, il y a un truc qui fait que c'est un certain charme, là où Predators, le suivant, sera totalement turbo débile, mais il n'arrivera jamais à sortir au moins une scène marquante, quoi. Alors que là, la scène du métro, la scène où il va défoncer les gangs, la scène du quand ils sont dans l'espèce de hangar et qu'ils essayent de le congeler,
ouais, puis
même la fin avec Danny Glover dans le vaisseau, enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants dans le film. Le prédateur qui est blessé aussi, qui devient du coup une constante un peu dans la saga, j'aime bien ce passage-là aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui me font kiffer malgré tout.
Mais peut-être que la légèreté, enfin en tout cas le défaut, c'est parce que le film a été tourné pendant la grève des scénaristes et donc ils n'avaient aucun scénariste et même le scénario qui avait été écrit au préalable donc par les deux frères qui sont à l'origine de Predator n'était pas encore finalisé au moment où ils sont rentrés en tournage. Donc je pense que le côté un peu, peut-être moins bien et moins quali par rapport au premier, et sans doute lié à ça, c'est-à-dire que le gars a fait beaucoup de l'image, mais je pense qu'il manquait peut-être soit une vision comme ou une volonté, quelque chose de subtil comme chez McTiernan, dans le fait de pas vouloir trop montrer ou d'avoir des espèces de second degré dans ce qu'il voulait montrer. Là, tout est super frontal, tout est super esthétique, et je pense qu'il faut effectivement, comme tu le dis, c'est super glucose, mais je pense qu'il faut prendre ce film pour l'image et pour son côté presque plus grand que nature, quoi.
Ouais, et puis de toute façon, ça, enfin, je veux dire, si tu prends pas pour l'image, tu prends pas pour autre chose, parce que techniquement, ça ne raconte rien. Enfin, tu sors pas du film en disant, ah ouais, dans cette scène, il a essayé de nous dire un truc, tu vois. T'es là, ah ouais, dans cette scène, le gars avait deux fusils à pompe et six pistolets accrochés à l'arrière de son coffre. Enfin, je sais pas si t'en penses, Constance, mais j'ai pas l'impression que le film essaie de raconter grand chose.
Bah, il raconte quand même un peu la vision qu'ils ont d'une société américaine qui devient vite ultra violente, avec beaucoup de pauvreté, avec dans le métro ces espèces de gangs qui sont ces gamins punk.
On en revient à Frank Miller.
Il y a quand même une certaine... c'est une vision qui est hyper ancrée dans son époque aussi, de l'autre comme étant une menace, et l'autre ultime, c'est l'alien littéralement, l'étranger, qui est là pour décimer la cité, qui est presque cette... malédiction divine qui tombe sur une cité maudite et ravagée par la violence.
Après, faut dire que c'est vrai qu'à l'époque, notamment, enfin les gangs jamaïcains et tout, c'est des trucs qui étaient ancrés dans l'histoire de l'époque, qui terrorisaient New York et pas mal de trucs. Enfin, j'imagine que ça vient de là, du coup, par exemple.
Ouais, je pense que c'est un moyen d'exorciser et de conforter aussi une partie de la population dans cette lecture de c'est des gangs ultra-violents qui font presque de la magie noire.
Après, je pense à un truc héros noir quand même.
Oui, tout à fait.
Pour une époque où, je sais pas si c'est très courant, j'ai pas trop le contexte sur The Predator 2. Après, Danny Glover avait son
est-ce qu'on
cachet.
Était pas aussi dans cette tendance de la Black Exploitation
Après, le film, il a pas trop une énergie Black Exploitation, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment... funky, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas que ça. Mais...
Surtout qu'au préalable, donc, Schwarzenegger était pressenti pour revenir, après il y avait Patrick Swayze, et au final ils ont pris Danny Glover.
Ils ne voulaient pas prendre Seagal aussi à un moment, je crois.
Ah si, ouais, mais ça, le réalisateur n'a pas voulu, mais le studio voulait mettre Seagal, quoi. Et je pense que là, ça aurait été bidon.
Ah, c'est clair. Avec sa queue de cheval, là, il aurait fouetté le Predator. Je repense à une scène en parlant de cheveux longs, hyper nulle, genre hyper glucose, mais la scène où il va voir l'espèce de gros gourou du gang là, genre c'est hyper raciste et tout. Le gars, il a de l'énergie noire, il lit l'avenir dans des ossements, mais après le prédateur vient le décapiter, et il y a cet enchaînement de scènes exceptionnelles où t'entends le mec crier, et c'est un gros plan sur son visage, et le plan d'après c'est un dézoom sur le visage alors que la tête est arrachée et tenue par les cheveux par le prédateur. Je trouve qu'elle est hyper bien, cet enchaînement de presque Edgar Wrightien dans son côté comique. Tu vois, on croirait un truc de Hot Fuzz quand il tue des gens, mais je sais pas, je la trouve hyper stylée. Puis même cette ruelle et tout, ça, c'est du Gotham trop crado. J'adore. Ah, j'ai envie de me le remater, tiens.
Et on va passer donc au troisième film. Ah, je vais peut-être parler d'abord un peu d'AVP. Bah, c'est de la merde.
Voilà.
Non, c'est compliqué. D'ailleurs, je déteste quand les gens disent ça dans leurs critiques. Tu vois, qu'ils commencent par ça. Bravo, bravo moi. Mais le truc, c'est qu'ils ont fantasmé AVP. C'est d'abord commencé par les comics. Il y a eu d'abord l'intention de faire un troisième film et ils avaient demandé à Robert Rodriguez d'écrire un script. On reviendra dessus pour Predators. Mais AVP, donc ce film, le premier, ouais, donc, on dirait une espèce de truc Lovecraftien. Donc il y a une pyramide qui tout d'un coup émet une espèce de signal. Et donc il y a Weyland Yutani d'Alien qui va monter une équipe de spécialistes pour aller donc dans l'Antarctique, pour aller dans cette pyramide qui serait l'amalgame de toutes les pyramides mayas, égyptiennes et tout ça. Et donc en fait, c'est un traquenard pour les humains parce que quand ils viennent dans cette pyramide, c'est pour se faire féconder par les aliens, pour créer des aliens et pour que les jeunes prédateurs aillent gagner les galons de chasseurs. Donc voilà, c'est le premier film et c'est teubé à mort.
Et n'oublions pas la dernière scène avec le prédalien.
Non, le prédalien, c'est pas maintenant, c'est dans le suivant. Le prédalien.
Ouais, mais le prédalien, c'est à la fin du 1 et du coup, on le retrouvera dans le 2.
Ouais, c'est ça, il sort du corps parce que donc le dernier prédateur qui a réussi à battre la reine alien est emmené dans le vaisseau. Et en fin de compte, dans le deuxième, on se retrouve donc avec le corps. Donc avec, en fin de compte, il avait été fécondé lui aussi. Et donc, il y a un prédalien qui sort de son ventre. Un amalgame entre l'alien et le prédateur. C'est complètement stupide.
Mais alors, ce qui est vrai, hein, tout ça est complètement stupide. Mais par rapport à ce qu'on dit, et c'est là où peut-être est la qualité de Predator 2 dans son côté visuel, et même s'il est très entré dans son époque, etc., c'est que tout ce que tu me dis, Predator contre humain, des jeunes prédateurs qui se font leurs armes, après ils se battent contre la reine alien dans une pyramide, tout ça, ça fait bander. Tout ça, on veut voir, tu vois. Genre, on sait que c'est débile, mais ça peut être du bon débile, tu vois. Et quand tu te souviens des scènes de baston, alors déjà, je crois que les prédateurs, ils apparaissent super longtemps, enfin, vraiment à la fin du film. Genre, c'est un calvaire de devoir attendre. La pyramide les tue bien avant qu'il y ait des aliens ou des prédateurs, si je me souviens bien. Et puis après, quand ça part en total Resident Evil avec des ralentis sur des shurikens ou des trucs comme ça, mais c'est absolument pas stylé, tu vois. Alors que tu te dis, yes, enfin sur écran, un Predator va gérer un alien et on va se sentir tous ridicules après avoir vu Aliens et tous ces pauvres humains lutter contre des xénomorphes, mais c'est même pas stylé, quoi. Bon, après, avec un réalisateur comme ça derrière.
Alors moi, j'ai assez peu de souvenirs de ce film, en fait, parce que je l'ai vu il y a 7 ans, alors j'étais en école de commerce. Et je l'ai vu genre un soir, ça devait être un lendemain de cuite, genre à 23h30 sur une pauvre chaîne de la TNT en VF. Et pendant des années, je me suis demandé si j'avais pas halluciné ce film, en fait, s'il existait vraiment ou pas.
Et Attends, c'est le seul film de la saga qui a une héroïne en...
Mais oui, et je me souviens juste d'un plan, je pense que c'est vers la fin, où t'as l'héroïne qui se sort de la pyramide. Et elle se retrouve à côté du prédateur,
ouais,
et un truc comme
et
ça.
Il lui fait le symbole.
Ouais, voilà. Et ben, je me souviens.
Elle est initiée en tant que chasseuse.
Juste de ça. Voilà.
Mais peut-être l'un des rares éléments que j'aime bien du film, parce que je trouve que la mythologie Predator, elle pouvait être hyper stylée. Je sais pas ce qu'en a fait Shane Black, et d'après ce que j'ai entendu, j'ai un petit peu peur de ce qu'il en a fait. Mais tu vois, toute cette idée qui tue pas certains persos, qui respecte ses adversaires et tout, je trouve ça hyper bien. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais vu Alien vs Predator au cinéma, et oui, j'avais trouvé ça stylé, qu'à la fin, il n'y ait pas juste le prédateur qui coupe la tête à la meuf, tu vois, mais qui l'initie comme l'un des membres de sa tribu quelque part. J'avais trouvé ça un peu stylé. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une tagline assez stylée sur AVP, c'était genre... deux espèces en guerre, le champ de bataille, la terre, ou un truc comme ça, trop nul. Mais David a pas lancé. Ah, il a pas préparé la bande annonce, il a pas fait son
non,
travail.
Non, je l'ai pas prise, hein, pas tu vois. Ah, pourtant, je l'avais mise, mais. Non, c'est trop dur.
Et AVP Requiem, est-ce qu'on en parle? Par les mecs qui sont les réalisateurs des effets spéciaux de 300, donc genre les sous-Snyder, qui se sont dit, allez, AVP, on y va. Est-ce qu'il y a un truc? Je sais pas pourquoi je suis en train de défendre l'idée AVP autant que ça, alors que j'ai pas lu, à part jouer au jeu et lu 2-3 comics, je veux dire, ce n'est pas vraiment un truc que j'affectionne particulièrement, mais déjà, personne n'a eu l'idée de faire un film Alien versus Predator qui se passe dans l'univers d'Alien. Ça se passe toujours de nos jours, ce qui est excessivement chiant, puisque tu peux pas mettre de Marines, tu peux pas mettre de vaisseaux spatiaux, tu peux pas être sur une autre planète. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. Et là, du coup, c'est des Predators et des Aliens dans un petit village des Amériques. Et puis, c'est un espèce de vieux, si je me souviens bien, slasher moisi.
Ah, c'est un slasher.
C'est un slasher pourri. Et à la fin, ça part en littéralement en bombe nucléaire sur le village. Et voilà. C'est fort quand même. C'est fort ce qui se passe dans ce film.
Alors que dans les scripts originaux, quand ils ont commencé à penser à Predator versus Alien, ils voulaient faire ça à peu près à l'époque d'Aliens. C'est-à-dire mettre ça un peu dans le futur et tout ça. Et pourquoi le mettre à nos jours? Bah, j'imagine pour des raisons de budget, mais c'est trop raide. Alors, puis alors Requiem, ouais, c'est le pire, quoi, franchement.
Mais franchement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est annoncer un film Alien dans lequel il y a un Predator et pas l'inverse. Parce que je pense que la franchise Alien a une meilleure répute. Et ils nous auraient dit, ouais, c'est un petit préquel, je sais pas quoi. Et là, les mecs, ils se battent contre l'Alien, ils pensent qu'ils vont se faire défoncer. Et là, il y a un Predator qui vient les sauver. Et après, il leur fait, maintenant vous avez 30 secondes, barrez-vous dans la forêt parce que vous êtes les prochains. Boum, fin du film.
Mais c'est un peu le cas hein, du film, je trouve. Hein. Il y a beaucoup plus d'aliens, que ce soit d'ailleurs dans le premier AVP.
Tu trouves pas que ça a juste pas de sens des xénomorphes de nos jours, alors qu'ils sont censés avoir découvert les xénomorphes à bord du Nostromo, quand ils sont sur la planète LV, c'est quoi? C'est 412?
Je sais plus.
Bref. Mais
Google vous le dira.
Google vous le dira et c'est la date de l'Alien Day, donc c'est pour ça que j'essayais de retrouver. Je sais que c'est en avril. C'est peut-être le 12 avril, donc 412. Bref, peu importe, on parle de Predator, mais AVP, c'est dur.
Mais je trouve que ces films ont galvaudé complètement les deux univers, à la fois Predator et à la fois Alien.
Ouais, c'est sûr. Peut-être un peu moins Alien, mais bon, je veux dire, c'est pas comme si Prometheus relevait non plus le niveau, quoi. Ni Alien Covenant, n'en parlons pas. D'ailleurs, dans Alien Covenant, il y a vraiment un moment où j'ai cru qu'ils allaient parler des Predators ou qu'il y a un Predator qui arrivait. Et je me suis dit, ah, ça aurait été stylé, ça aurait sauvé le film. Peut-être. Tu sais, de cette mode des suites secrètes à la Shyamalan, tu vois. Ah, en fait, c'est une suite à AVP Requiem. Vous l'avez toujours demandé, n'est-ce pas? Bref, une horreur.
Et donc après, donc ça sera Predators.
Oui.
On est tous sur le cul.
sans doute
un énorme enthousiasme.
Bon, quelle est la dernière chose dont tu te souviens?
Spooky.
Un gouille, une lumière, et après, je suis tombé.
Qui êtes-vous?
Je devais être exécuté il y a 2 jours.
J'étais en plein combat. Oui, moi aussi.
Force spéciale.
Yakuza.
Va falloir bosser en équipe.
Est-ce qu'on a l'air de gens prêts à bosser en équipe, d'après toi?
Ils peuvent vous entendre, vous sentir et vous voir.
On a été choisis.
Choisis pour quoi faire?
Cette planète est un terrain de chasse. Et on est le gibier.
Fuyez ce film comme la peste! C'est de la merde! Voilà, c'était mon introduction. On en parle? Tu présentes le film, David? Allez, David!
Ok, une tribu d'individus qui sont balancés en parachute et qui se retrouvent sur une planète étrangère. Et ils se rendent compte, comme le dit dans la bande-annonce, qu'ils seront les gibiers des prédateurs.
Alors, c'est génial, comme la bande-annonce spoil à peu près tous les twists intéressants du film. Genre, 1, ils sont pas sur leur planète. 2, ils sont tous d'environnements différents. Et ils nous parlent aussi on entend aussi la voix du célèbre survivant. L'un des plus grands rôles de la carrière de Laurence Fishburne, à n'en pas douter. Juste devant Morpheus, légèrement. Donc, voilà. Après la bande-annonce, vous n'avez plus grand-chose à voir, je pense.
Ouais, ce film, il est singulier. Au préalable, Robert Rodriguez voulait... on lui avait demandé un script, et donc il avait mis tout ce qui lui le faisait rêver dans un film Predator. Et donc, il devait y avoir 200 Predators avec des motos, des bières, au bord d'une arène, enfin... Robert Rodriguez, as fuck.
J'aurais préféré voir ça. Je lève le doigt maintenant.
Moi aussi, j'aurais aimé le voir. Et en fin de compte, au final, c'est un pauvre film, un survival avec des personnages plus caricaturaux. C'est difficile, quoi. Parce que même dans le premier, où tu es quand même face à des personnages caricaturaux, mais là, c'est pas subtil pour un sou.
Non, c'est très difficile et... Effectivement, ils sont tous basés sur des stéréotypes hyper vénères. Donc, t'as le prisonnier qui était prêt de passer à l'injection létale, le yakuza qui est en fait un samouraï déguisé, le mexicain, la meuf des forces spéciales israéliennes, notre ami Adrien Brody qui est sans doute l'un des pires héros d'action de tous les temps, je le dis tout de suite maintenant, le revoir ce film a été pénible juste à cause d'Adrien Brody. J'ai encore revu que le réalisateur, qui donc n'est pas Robert Rodriguez, même s'ils sont servis d'un script qu'il a écrit dans les années 90, comment il s'appelle déjà le réalisateur ? Nimrod Antal. Nimrod Antal, qui n'a pas fait grand chose d'autre dans sa carrière. Elle disait, on aurait pu caster un Vin Diesel et là les gens auraient pété les plombs. Donc en fait, j'ai voulu faire une autre évolution du héros masculin, etc. Alors ça part peut-être d'une bonne intention. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire prendre 25 pounds de muscle à Adrien Brody qui du coup ressemble à rien ? Enfin, je trouve qu'il a zéro dégaine. Ses dialogues dans le film sont horribles, mais horribles. Le mec cite du Hemingway entre deux batailles. Enfin, c'est juste pas possible et c'est même pas rigolo. Et surtout, il fait, on dirait, parce que maintenant c'est une référence qu'on peut utiliser grâce à 2018, on dirait Chris Pratt, enfin Star-Lord, qui imite la voix de Thor dans Infinity War tout le long du film. Tout le long du film, le mec se force à parler comme un héros d'action, tu vois, en mode super sombre et tout, alors que c'est juste un pauvre gars qui a été à la salle pour porter son fusil à pompe. Sérieusement, il est tiep ce héros. Et en plus, il sort des répliques tellement cringy.
En fait, c'est bizarre d'avoir voulu changer l'image du héros masculin du film d'action, alors que le rôle en lui-même et les répliques et les dialogues et tout ce qu'il fait sont plus, hyper caricaturaux. Quoi. Je vois pas c'était quoi le projet derrière. Pour moi, ça fait pas de sens d'avoir cette justification.
En fait, le mec, quand il a dit Vin Diesel, t'es là genre, c'est très clairement un rôle Vin Diesel, quoi. Tu vois, tu mets Vin Diesel, tu te dis pas « Ah ouais, non, à un moment, il est ridicule. » Tu te dis « Ah ouais, carrément, c'est Vin Diesel. Il dit des choses que Vin Diesel dirait, tu vois. » Comme quand il va aller toucher les cheveux de la meuf après une heure du film, alors qu'ils se connaissent pas, et lui fait « Tu t'occupes tellement des autres, tu n'as oublié de t'occuper de toi. » Tu es en mode genre « S'il te plaît, va mettre du maquillage et repomponne-toi un peu. » Je veux dire « Ok, on est sur une planète, on est en train de se faire chasser par des prédateurs. » C'est pas une raison, Brigitte, Corinne. mais quand même, c'est chaud, quoi. Ce film, c'est chaud. Et puis de bout en bout, les hommages au premier Predator, alors que ça comprend rien. Déjà, tu commences par la scène dont on a quand même parlé longuement dans ce podcast, de mitrailler la jungle avec ton minigun. Et du coup, c'est la première scène du film. Et du coup, tu te dis, mais on dirait vraiment un mec qui s'est dit, allez, moi je kiffe, je commence par ça. Et privé de son sens, surtout les mecs deviennent potes en 10 secondes, alors qu'il y a des persos, ils se font pas confiance. Les twists sont tout pétés, les dialogues sont nuls. Et à chaque fois qu'ils essaient de faire référence au film, c'est genre « Ah, ça se passe dans la jungle. Ah, regarde, il a un minigun. Ah, regarde, il parle de Schwarzenegger. Ah, regarde, le survivant, il utilise les mots qu'utilisait Dylan dans le premier Predator. » Donc en fait, ça n'arrête pas de citer le film.
Mais sans le comprendre. Enfin, je sais qu'à un moment, il pique aussi un scorpion. Et dans le premier film, il y avait un vrai enjeu autour de ce scorpion et de la tension entre les personnages. Et là, c'est juste genre, regardez, on a mis un scorpion et on a mis un scorpion sur un couteau.
D'ailleurs, comment un scorpion ressemble à un scorpion sur une exoplanète ?
Mais
ça, c'est la question.
On sait qu'il y a des plantes aussi de notre planète Terre parce qu'il y a un des personnages les plus tout pétés aussi qui le fait remarquer.
Oh putain, lui, il est pété aussi. Hein.
Le docteur qui... Tout twist est en fait
un psychopathe.
Un dangereux psychopathe.
J'espère que vous avez vu Predators. Auquel cas, si vous ne l'avez pas vu, bah, sachez que c'est nul, mais que sans doute ce qu'on est en train de vous dire vous donne envie de le voir pour le Hate Watch. Ce serait presque lui faire trop d'honneur parce qu'il n'y a même pas de scène marrante. Je me souviens l'avoir vu aussi au cinéma. Je me souviens que j'attendais comme le putain de Messi parce que AVP ça avait été pénible et j'aimais bien quand même ce putain de Predator. Et je trouvais que la bande-annonce envoyait quand même un petit peu le bois parce que j'étais jeune et con et sans doute sans aucune notion de cinéma. Et quand j'ai été voir le film, je me souviens que j'avais plutôt bien aimé. Donc quand je l'ai revu, je me suis dit « Oh, mais je suis sûr qu'il y a une scène qui va me rappeler pourquoi j'ai bien aimé. » Et en fait, cette scène, c'est quand ils captent qu'ils se font chasser par les Predators, mais qu'il y a aussi un Predator qui s'est fait chasser et capturer. Mais dans ma tête, j'ai inventé un tout autre film où à la fin, il y avait un team-up avec le Predator, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste deux Predators qui se fightent entre eux, ce qui aurait pu être stylé là aussi, mais qui est filmé avec le fion, hein, faut bien le dire, globalement. Je pense pas que Rodriguez soit un grand réalisateur, mais il a quand même un certain don pour l'image, et là, j'ai vraiment du mal à retenir ne serait-ce qu'une scène dans ce film. Je trouve que c'est nimp et ça suit en plus la construction scénaristique du premier jusqu'à au lieu qu'il se met un peu de boue dessus, mais il met du feu autour du Predator, ce qui est aussi une technique pour l'isoler. Mais en même temps, ils ont introduit ces espèces de super prédateurs. Je sais pas s'ils les appellent les super prédateurs dans le scénar, mais
Berserker, je crois.
Ouais, les Berserkers, c'est ça. Ouais, du coup, ils sont un peu plus balèzes et tout, mais du coup, ils ont plus du tout aucune notion de chasser. En fait, ils dégomment les types au blaster, ils ont des drones. Enfin bref, les mecs, ils cheatent, quoi. Donc là aussi, c'est quand même moins marrant, et je trouve que le film tue complètement l'attention, en fait, autour du Predator. Déjà parce que je crois qu'il y a deux scènes où t'as l'impression qu'il y a un Predator, et en fait, c'est d'autres monstres. Donc il y a la première cage avec l'espèce d'insecte qui est justement une référence au Predator de Jean-Claude Van Damme dont on parlait tout à l'heure. Mais limite, ils auraient pu faire une référence stylée en nous montrant toute la créature et à quel point elle était miteuse. Jeu de mots. Parce que ça ressemblait un peu à une mythe, t'as vu. Et du coup, ils la tuaient. Mais non, on la voit à peine dans une cage. Après, il y a des espèces de dinosaures ou alors des chiens prédateurs parce qu'ils ont l'air de dire que c'est peut-être ils l'auront lancé les chiens, parce que aussi Adrian Brody connaît tout dans ce film, c'est-à-dire qu'en fait le mec à
tout.
Chaque fin comment écrire un Predators, faites une scène d'action et à la fin pour passer la première et pour que les personnages avancent vous faites dire à Adrian Brody un truc. Donc au début il est là, ah on a sans doute été droppé sur cette planète parce que on est des soldats les meilleurs et tout. Bon, ok, comment il reconnaît ça, je sais pas, à la rigueur c'est un ancien militaire, c'est un mercenaire, pourquoi pas. Ah, je pense qu'ils nous envoient leurs chiens. Ça veut dire que ce sont des chasseurs. Après, c'est genre, ah, je pense qu'ils chassent en meute parce qu'ils ont exilé un des siens. Et en fait, à chaque fois, il a la réponse. Mais quand tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce qu'il est avec les prédateurs ou pas ? Enfin, moi, je me souviens quand je savais qu'il y avait un twist pété. Et je croyais qu'en fait, c'était Adrian Brody, en fait, qui était depuis le début avec eux ou un truc comme ça. Tu vois.
Ça aurait été un meilleur film, honnêtement.
Ouais, bah, je sais pas, mais je trouve que c'est complètement flingué. Enfin, tu sens que le scénar, il est pas écrit. Et après, il a été écrit par Robert Rodriguez en 94 sur le tournage de Desperado, hein, d'après ce que j'ai lu. Donc, faut pas trop non plus lui en demander à l'ami Bobby. Mais putain, c'est chaud, quoi.
Enfin,
c'est
là,
vraiment chaud.
Le scénario de Robert Rodriguez, il a été mis à la poubelle parce qu'après. Nimrod Dantal a pris deux scénaristes et ils ont tout réécrit. Donc,
Mais je croyais qu'il y avait quand même une base de Robert
Rodriguez. Je pense
Rodriguez.
Que oui, il y a la base Robert Rodriguez parce que de toute façon, il est producteur du film. Mais au final, de toute façon, le scénario original coûtait trop cher, donc ils ont réduit les coûts au taquet pour au final avoir une jungle, 4 ou 5 gus dedans.
Mais alors, tu parlais du défaut de jungle dans le premier Predator et comment ils l'ont camouflé. Moi, je sais qu'ils ont tourné en partie dans la jungle, mais que la grande majeure partie du film, si je dis pas de bêtises, est tournée en studio. Et je crois qu'il y a des morceaux de la jungle qui sont en studio parce que des fois, la lumière, elle change d'une scène à l'autre. On s'est fait la réflexion avec Constance en se disant, putain, c'est vraiment les trois feuilles en plastique achetées chez Jardiland le dimanche, tu vois. Enfin, je suis désolé de faire des trucs aussi bateaux et lancer de la punchline comme si j'avais pas d'argument, mais regardez le film et des fois, c'est quand même criant. Et surtout, c'est même pas... Parce que peut-être aussi des raisons de budget, mais je veux dire, à la rigueur, tu passes ta colorimétrie de verre en violet et tu te dis, ah voilà, t'es dans une forêt qui visuellement ressemble pas à une forêt, et ils peuvent se dire, déduire qu'ils sont pas sur leur planète, alors qu'au final, ils sont là en mode, le soleil n'a pas bougé depuis le début. T'es en mode, ah d'accord, nous, en tant que spectateurs, on n'a aucun moyen de voir le soleil parce qu'il est jamais dans le champ. Donc c'est pareil, il y a zéro intelligence, quoi. Ils n'essayent pas de nous faire deviner des trucs. C'est juste Adrian Brody qui est en mode, le sphinx, je connais tout.
Mais je pense que ce film, en fait, un des défauts de ce film, c'est de prendre les spectateurs pour des teubés, quoi. On t'explique tout, on te remontre tout.
En même temps, c'est un blockbuster sorti dans au milieu des années 2000. Donc
ouais, c'est assez terrible, quoi. T'as l'impression que les personnages sont constamment en train de commenter ce qu'ils font. Il y a vraiment... Enfin, il n'y a pas de suspense sur rien. C'est...
Le seul suspense que t'as, c'est Laurence Fishburne.
Et encore, t'as du suspense pendant deux minutes et après tu captes que le mec,
et
en
Robert
fait, c'est
Rodriguez,
Gollum dans sa
jour,
tête.
Il
quoi.
A dit « Ouais, moi, je pourrais faire une suite, ce serait un préquel sur le personnage de Laurence Fishburne. » Et j'ai fait « Ouah, putain, chaud quand même. » Parce que bon, du coup, ça revient à expliquer qu'il a tué trois prédateurs, c'est à peu près le seul truc qu'on sait de lui, et qu'il a vite fait une armure pour se protéger d'eux, et qu'au final, il s'est caché depuis 20 ans dans son vaisseau, et un jour, parce qu'il fait de la fumée, bah, les prédateurs, ils le trouvent. Enfin non, parce qu'ils font une explosion, je sais plus. Mais ouais, c'est vraiment flingax, quoi. Et tout est flingax, c'est la fin où t'as tous les parachutes avec les mecs qui reviennent, ça recommence, on va survivre à une autre saison de chasse. Et c'est, tu comprends même pas, tu sais, ça essaie même pas de faire, tu sais, t'as pourrait avoir une mythologie sur la chasse et tout, pourquoi ils chassent, pourquoi il y en a un qui a été mis à part et tout. C'est le seul moment que je trouve du film assez intéressant où il va libérer le prédateur en lâchant les autres. Mais c'est pareil, pendant une heure et demie, il te raconte que Adrien Brody, c'est vraiment un connard, il veut pas être avec les autres, puis à la fin, il va sauver sa gonzesse. Enfin, sérieusement, quoi, pitié. Et autre truc pourri aussi, tu te dis, c'est neuneux, ça commence par le minigun, mais au moins, il y aura 14 prédateurs avec des motos, des chiens et des fusils de l'espace. Non, le premier Predator apparaît après 38 minutes de film. C'est un calvaire total. Le revoir est très compliqué quand même. Je trouve que quand tu sais que c'est de la merde, parce qu'on t'a dit que c'est de la merde et que tu le revois parce que t'as des potes qui t'invitent à faire des podcasts, bon peu importe, et tu le revois et tu te dis putain, faut que j'attende 40 minutes pour voir mon Predator, et ben ça fait mal au cul. Voilà, j'en ai fini avec ce film.
Est-ce que je vais aller dans le gros de la question, est-ce qu'on a évacué ce film, et je pense que de toute façon on peut pas le plomber plus qu'il ne l'est de toute façon.
On l'a écaillé vivant.
On l'a écaillé vivant, mais d'un autre côté, il était déjà écaillé.
Il est arrivé comme ça, écaillé, sans
tête. Mais tu sens qu'en plus, le cast se fait chier. Enfin, franchement, tu vois la détresse dans les yeux d'Adrien Brody, quoi.
Non, mais ça, c'est ce qu'il a voulu apporter au rôle, parce qu'il cite Hemingway, tu vois.
Non, mais en plus, ce film, de toute façon, à partir du moment où tu commences à expliquer par le dialogue ce que le réalisateur ne peut pas expliquer par la réalisation, c'est qu'il y a déjà un problème, quoi.
Ouais, bah, complètement. Mais a priori, personne ne leur a dit dans leur studio en mode « Eh, faut peut-être faire un truc ». Non.
Bon, alors, je voulais en venir à la question. C'est est-ce que le numéro 1, c'est pas une anomalie dans toute la saga Predator, qui est quand même une saga de série B qui va du sympathique avec Predator 2 au navet avec AVP et Predators. En plus, Predators, ouais, le gars, il prend le pluriel pour faire genre « Hey, j'ai fait comme Aliens de Cameron !»
T'as vu, je suis fort. Mais ils sont copains, qu'est-ce que tu veux. Bah si, ouais, c'est une anomalie, mais on l'a expliqué pourquoi. Parce que Silver avait une vision du truc qui n'était pas la vision du studio, qui n'était pas la vision de Shane Black invité à refaire le scénario qu'il trouvait bien, qui n'était pas la vision de John McTiernan, avec un Schwarzenegger qui n'était pas tout à fait Schwarzeneggeresque encore, une créature qui n'a pas failli être celle-là, mais qui était quand même était celle-là. Enfin, au final, le film en lui-même, sa survie et son succès étant une anomalie, le fait qu'il soit devenu une franchise l'est aussi, et quelque part le fait qu'aucun film n'ait réussi à faire quelque chose de bien derrière ça prouve que c'était peut-être pas fait pour être une franchise. Ça me fait un peu mal de le dire parce que je kiffe cette bestiole, mais enfin, techniquement ils nous ont jamais prouvé, et j'ai bien peur que même Shane Black n'arrive pas à le prouver, que c'est un événement, que c'est quelque chose qu'il faut valoriser, quelque chose qui compte dans l'histoire du cinéma. Ouais, t'as Predator, mais quelque part il compte aussi parce qu'on a aujourd'hui des débats en se disant au fait c'est peut-être une lecture sur la virilité, sur l'interventionnisme américain, le monstre on le voit pas une partie du film, enfin tu vois, ça a placé quand même pas mal de codes et de trucs comme ça qu'on retrouve pas du tout dans les films suivants, et surtout on perd un peu de charme à chaque film, donc c'est quand même dur de le voir autrement que comme une série de série B dont le premier film était finalement une totale hérésie du point de vue de l'actionneur bidon, tu vois. Mais ça arrive qu'il y ait des franchises comme ça ou des séries de films où il y en a un qui est pas mal et tu sais pas vraiment pourquoi, quoi.
Mais surtout que le premier, c'est vraiment une série d'accidents heureux. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû exister tel qu'on le voit, et c'est complètement fascinant. C'est-à-dire que tu te dis que la suite repose sur des bases qui sont saines, et comment ils ont réussi à flinguer tout ce film, quoi.
Ouais. Mais parce qu'ils ne sont pas posés les bonnes questions, et après je passerai la parole à Constance, mais je trouve que par exemple, il y a plein de trucs qui n'ont jamais été explorés dans la saga, c'est notamment ce que je trouve hyper stylé, c'est contrairement aux xénomorphes, le Predator, il utilise des armes, etc. Il a mais donc du coup, il est intelligent, il peut peut-être avoir une certaine forme de dialogue, et aussi il est handicapé. C'est-à-dire qu'on t'explique, je crois que c'est dans le deuxième film, qu'il ne voit que dans un seul spectre, et qu'il a besoin de son masque. Et je trouve que cette idée était hyper géniale de dire, en fait, s'il a toute cette technologie, c'est parce qu'il veut être le chasseur d'ultime, mais de base, il ne l'est pas, en fait. Sans son masque, c'est une grosse merde, il ne te voit pas, tu vois. Et je trouvais que c'était hyper stylé, et qu'ils auraient dû vraiment creuser dans ce handicap. Et tu le vois d'ailleurs, dans tous les films jusqu'à Predator, il me semble, il y a ce Predator qui finit par être touché, contrairement au Xenomorph, qui est pas caractérisé, qui est juste un monstre hyper iconique, et plus il y en a, limite, mieux c'est. On l'a vu avec Aliens, James Cameron, il a réussi à multiplier et à faire un truc stylé. Mais les aliens, c'est des loups, c'est n'importe quel prédateur, pour faire un jeu de mots nul. Alors que le Predator, lui, même s'il porte ce nom-là, il peut avoir une identité, il pourrait insister sur ce côté honorifique ou créature handicapée, mais qui choisit, comme elle le fait dans le premier film, d'enlever son masque. Alors qu'elle sait qu'elle voit plus rien et qu'il combat à l'aveugle. Je trouve qu'il y a plein de concepts là-dedans intéressants à tirer. Mais non, ils ont toujours essayé de multiplier. Maintenant, il a un lance-filet, il a une lance, des disques shuriken, et il est contre tant de mecs. Puis maintenant, on va le mettre contre l'alien. Et un autre jour, on va le mettre contre Terminator. Enfin, tu vois, ça a toujours été dans la direction. Comme tu disais, il y a eu une série d'accidents heureux avec le premier film. Et par la suite, c'est une série de décisions heureuses, c'est-à-dire je pense que les gens qui les ont prises étaient vraiment persuadés que c'était le meilleur qu'ils pouvaient, mais en vrai ils n'ont pas vraiment compris ou ils n'avaient pas forcément le recul sur qu'est-ce qui peut faire qu'un film Predator, c'est l'événement, tu vois. Et aujourd'hui on l'a bien vu, même Shane Black qui a défendu pendant 2 ans en disant moi je veux faire un Predator événement, mon objectif c'est de ramener la franchise en forme et tout, au final le studio l'a pas du tout défendu et ils savent bien que c'est pas un film événement a priori, tu vois. Donc ça prouve que c'est bien une série B où il y a une anomalie. En tout cas, c'est mon cas. Je le pense. Qu'en penses-tu, toi, Constance Kenstant?
Je pense que le premier film avait vraiment quelque chose et que justement, derrière, en fait, on est parti dans la série B parce que... Enfin, c'est fou, mais j'ai l'impression que les gens derrière qui se sont emparés de Predator n'ont pas compris quel était... l'essence, et qu'est-ce qui avait fait le succès du film et qu'est-ce qui avait fait son intérêt. Quand on voit un Predators qui ressemble à... Enfin, l'intro, c'est genre Dead or Alive, on te présente des différents combattants et qui sont tous plus caricaturaux les uns que les autres, dans une arène avec toujours plus de Predators qui sont toujours plus gros, avec toujours plus d'armes. Enfin, il y a un côté hyper débile, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo, alors que... Il y avait pour moi un vrai message et des vraies tentatives de réalisation. Et il y avait une ambiance qui était vraiment poisseuse sur ce premier, où ces mecs, ils sont dans la jungle, ils transpirent, ils sont perdus d'ailleurs. Même le spectateur, en fait, lui-même est un peu perdu parce qu'on finit par le comprendre, mais au départ, on ne sait pas trop dans quelle partie du monde ils sont. Enfin, il y avait un côté vraiment mystérieux autour de la créature qu'on a perdu, je trouve, vachement, qui est dans les films d'après qui sont devenus hyper explicites. Et pour moi, en fait, je ne sais pas si on arrivera à renouer avec ce premier film qui était presque... qui est une petite vibe presque indé. Et derrière, c'est vautré dans la série B en essayant de copier en fait, les éléments que les personnes... Enfin, que les gens pensent qui... pense dont elles sont les pièces maîtresses de Predator, alors que pas vraiment, quoi.
Mais je pense que s'il devait copier un film, je pense que tu peux pas copier le celui de McTiernan, mais je pense que tu peux partir dans ce que a ouvert le 2. C'est-à-dire que le 2 a ouvert la mythologie, a ouvert même ce Los Angeles un peu fantasque, est quand même plus intéressant que ce qu'a fait Predators ou... rebalancer dans la jungle, c'est quand même d'une pauvreté. Et,
ouais, c'est clair.
Enfin, le gars, il passe son temps à citer le film, mais sans jamais presque comprendre pourquoi telle ou telle scène sont canoniques, telle ou telle scène mérite d'être associée à une autre, enfin dans le montage, enfin là c'est, enfin c'est de la caricature, vraiment c'est de la caricature.
Mais tu vois, pourquoi pas rebondir en fait sur l'histoire récente de l'interventionnisme américain et te faire un Predator dans un désert d'un coin de la planète et d'avoir un discours critique justement sur la manière dont l'armée américaine investit les lieux et sur l'hypervirilité qui prévaut toujours dans toute la com autour de l'armée US. Ça aurait pu être quelque chose d'un peu différent et peut-être de plus pertinent et de plus dans la droite lignée du premier.
Un Predator dans le désert, j'adore.
Ah oui.
Je trouve que c'est une très belle idée.
Je suis chaud, quand tu veux.
Mais écoute, Hollywood, call me.
Allez, on va passer à la partie versus. Je mets une petite virgule.
Allez, la virgule.
Pourquoi Predator n'a pas suivi le même chemin qu'Alien ? C'est-à-dire que t'as l'impression que, enfin, en plus avec AVP, tu te rends bien compte que les deux semblent liés, alors parce qu'ils appartiennent au même studio, mais pourquoi l'un, d'une certaine manière, a glissé vers la série B et a glissé vers le navet, tandis que l'autre...
A glissé vers la série B et le navet aussi.
Ouais, mais enfin, les quatre premiers films sont quand même cultissimes, ouais. Chacun à leur manière, ouais, ouais. Quand même.
Bah, on fera peut-être un jour un actionneur sur Alien, mais même si c'est pas toujours exactement un film d'action, mais déjà en fait je pense que ce que je viens de dire est un élément de réponse, c'est-à-dire que les aliens ont su caractériser iconiser leur bestiole à chaque fois dans des environnements différents avec des genres différents et surtout des visions de réalisateurs très différentes. John McTiernan, c'est un réalisateur relativement connu, mais je doute quand même que la plupart des gens puissent le sortir comme ça de tête, contrairement à Ridley Scott ou James Cameron par exemple.
Cameron Fincher, ça.
Ouais, voilà. Donc du coup on est Jean-Pierre Jeunet si on demandait aux gens en France, donc déjà il y a quand même des visions d'auteur qui paraissent quand même bien plus fortes que Predator. Il y a aussi l'idée que j'ai l'impression que les gens qui ont été en charge pour ceux de maintenant, mais il y a une époque où je pense que les gens avaient compris que Alien était quasi anthologique en fait, et qu'on pouvait proposer un film, limite faire mourir l'héroïne dans le 3 et la faire revenir dans le 4, et que c'était limite pas trop grave. On pouvait toujours s'en sortir, et qu'il y a un ADN bizarre aussi dans la franchise qui fait qu'on peut se permettre des choses. Dans Predator, j'ai l'impression que le premier étant vraiment ancré sur Terre, dans notre monde réel, avec cet affrontement entre l'homme revenu à l'état de bête contre cette espèce de chasseur ultime, il y a une espèce d'histoire quasi mythique, hyper simple, mais quelque part aussi tellement simple et figée dans le marbre que j'ai du mal à voir comment elle pourrait être réinventée. Donc, à part avec la vision d'un réalisateur qui arriverait à quelque chose qui est vraiment très différent. À part peut-être avec Shane Black qui décide d'en faire une espèce de comédie noire ou un body movie, tu vois, potentiellement. Mais c'est comme ça, en fait, qu'il faudrait essayer de la sortir. Si tu regardes Jungle Urbaine, Renouveau Jungle, on n'a jamais essayé de faire autre chose que le mélange de base, jusqu'à peut-être Predator, ce qui le met dans la banlieue et dans d'autres environnements, visiblement. Mais déjà, le simple fait de le délocaliser dans l'espace, peut-être même dans le temps, pourquoi pas un Predator qui vient chasser sur Terre, mais à une autre époque, j'en sais rien. C'est toujours des trucs un peu, des pitchs un peu à la mort moelleux que tu fais sur une serviette quand t'es au bar, quoi, mais ça serait peut-être le moyen de, tu vois, de booster le truc. Mais après, je m'avance peut-être sur ta question suivante. Mais,
non, pas du tout, okay. Non.
Mais du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que Aliens, quelque part, Alien, il y a eu cette idée que ça peut être la vision de plusieurs auteurs, ça peut être très différent d'un film à l'autre. Il y a eu des incidents heureux et malheureux sur cette franchise, mais il y en est toujours ressorti des films singuliers, alors que Predator, les trois films se ressemblent en fait finalement. Et même AVP n'a pas réussi à placer le Predator dans une nouvelle vibe, quoi. On l'a mis en Antarctique, super. Oh, on l'a mis dans une petite bourgade des États-Unis, super aussi, quoi. Donc, un petit peu dommage, quelque part. Mais ça se comprend aussi. Et puis, je pense que les films Aliens ont eu toujours beaucoup plus de budget que les films Predator, si je dis pas de bêtises, quand même. À partir de Aliens, ça commence à avoir un petit peu de thunes. Predator, j'ai un peu l'impression que c'est toujours la franchise Alien au rabais, quoi. Constance.
Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense qu'effectivement, ce qui fait la force de Alien, c'est cette vision d'auteur, en fait, et qui fait que chaque film a aussi un gros travail autour de l'esthétique et tout. Alors que, ben, franchement, enfin, que ce soit Predator 2 ou Predators, j'ai pas du tout été bluffé par ce que je voyais à l'écran.
Et il faut aussi ajouter l'héroïne, je pense.
Aussi, oui.
Parce que c'est quand même un point d'entrée dans la franchise qui fait que t'as cette constante-là, alors que le héros de Predator, c'est le Predator, en fait. Et t'es jamais vraiment de son point de vue, sa mythologie elle est un peu flinguée, elle est toujours un peu malmenée. Bah, t'es toujours avec des persos très archétypaux de l'autre côté, donc je sais pas si. Je pense que Shane Black réussira au moins ce point-là, d'avoir des persos un petit peu kiffants, parce qu'il sait écrire des bandes de gros teubés et de losers magnifiques, quoi. Mais ça en fera sans doute pas un super film non plus, quoi. Ah, je m'avance.
Allez, on va passer à la conclusion. Allez, quelle est votre actualité à chacun ? On va commencer peut-être par Constance, vu que j'ai teasé
le teasing.
La guerrière grecque.
Tout à fait. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, je suis cosplayeuse. Et j'ai réalisé récemment le costume de Cassandra du jeu Assassin's Creed Odyssey là, qui vient de sortir. Et voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un shooting photo accompagné par République dans d'authentiques ruines romaines au fin fond de la Normandie. C'était très marrant.
Et, oui.
Et les photos sont plutôt chouettes. Effectivement, elles ont été partagées pas mal sur les réseaux sociaux Reddit, Kotaku et même sur la page officielle de Ubisoft Canada. Voilà, donc merci à eux.
Très belle actualité.
Ouais, en plus c'est vachement beau.
Merci.
Merci David. J'imagine que c'est à moi. Alors je ne suis sur aucun site ces derniers temps, ce qui est excessivement décevant. Mais sinon, écoute, l'aventure Outrider se poursuit et se poursuit relativement bien, surtout que Dash Render est canon et qu'il y a eu quelques annonces Star Wars assez sympas ces derniers temps. Donc vous pouvez toujours aller nous retrouver sur iTunes, SoundCloud et maintenant Spotify grâce à David qui m'a envoyé le lien. Et puis bah, l'actu, ça va aller être d'aller voir The Predator pour faire le prochain podcast, donc demain à l'heure où j'enregistre cet épisode, et puis de beaucoup bosser parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment et un petit peu de mal à travailler les podcasts et tout ça de l'autre côté, donc on espère qu'on sera quand même au rendez-vous et qu'on se fera pas écailler vivant. D'ici là, voilà, je voulais placer un dernier écaillé vivant. Bonsoir.
Voilà, et petite reco, visite cinéma. On a eu la chance la semaine dernière d'aller à Londres et de visiter les studios Warner avec tous les décors, les accessoires, les costumes, les explications sur les effets spéciaux des films Harry Potter. Et voilà, si vous ne l'avez pas fait, franchement... allez-y, même si vous n'êtes pas archi fan de la saga, si vous êtes des fans de cinéma, je trouve que ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a beaucoup d'explications à la fois des réalisateurs, mais aussi de tous ces gens, ces petites mains de l'ombre, des costumières, des accessoiristes, et de tous ces gens-là dont on ne parle pas forcément et qui ne sont pas toujours sous les feux de la rampe, mais qui le méritent amplement.
Et oui, et on est même passé près du bâtiment où Henry Cavill s'échappe en hélicoptère. Dans Mission Impossible.
C'est vrai.
Et ça fait plaisir.
Allez, je vais balancer mon actu. Donc moi, j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle Itchy. Comme vous avez pu l'entendre donc, dans le précédent podcast, je suis assez fan du cinéma asiatique. Et donc là, c'était le moyen de parler un peu de cinéma, d'anime et de séries asiatiques. Donc dans le premier numéro, j'y parle de Darling in the Franxx et surtout de Burning, le film de Lee Chang-dong qui est sans doute... La claque cinéma que j'ai reçue cette année, c'est un film fantastique, un thriller prenant. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, donc je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous aimez Actionneur, à en parler autour de vous et à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Cela permet d'augmenter la visibilité. Donc on est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Deezer, Spotify, sur la plateforme aussi Echo. Je pense qu'on est partout.
Ouais.
Il suffit de nous chercher pour nous trouver.
D'ailleurs, tout à l'heure, je suis descendu dans la rue, j'étais chez la boulangerie, j'ai demandé une baguette, elle m'a dit « Vous voulez le dernier actionnaire avec ça ?» J'ai dit « Waouh, David a fait son taf !»
Exactement, voilà. Omniprésent.
Exactement, partout, dans vos oreilles.
Ouais, nous retrouvons très vite.
À très vite, les petits prédateurs.
À très vite.
À très bientôt.
et attention à ne pas...